bonsoir, bonsoir à tous, chers amis. C'est vrai que j'ai expressément désiré venir jusqu'ici pour deux raisons. La dernière fois que je suis venu à Pau en 2009, Peter m'a bien dit « c'est bien que tu ailles aussi dans d'autres assemblées de la région ». Puis j'en ai pas tellement tenu compte, je suis resté à Pau. Et je voulais me rattraper. Et d'autre part, ben, on connaît depuis longtemps Pierre-Henri, qui est venu souvent dans notre région, et même dans notre petit rassemblement à Annonay. Donc voilà, c'est seulement pour partager modestement avec vous le trésor que nous avons en commun dans la parole de Dieu. Donc nous allons lire d'abord un verset dans le livre de la Genèse, au chapitre 49 de la Genèse. Verset 17, verset 16. Dans sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe lui tombera dessus, et lui leur tombera sur les talons. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, Apocalypse 19, verset 1. Après ces choses, j'ouïs comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant Alléluia, le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui convoite de la terre, etc. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 de l'évangile de Luc, verset 9 au verset 8, il y avait dans la même contrée des bergers demeurant au champ et gardant leurs troupeaux durant l'éveil de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans la crèche. Toujours au chapitre 2, verset 29, c'est Siméon qui parle, il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. » Jusque-là pour le moment. Donc, j'ai pensé à ce sujet, ce très beau sujet, du grand salut de Dieu. Alors, ce titre est une composition de deux passages, Luc 2, toute chair verra le salut de Dieu, et Hébreu 2, un si grand salut. Oui, c'est un beau sujet, le salut de Dieu, le grand salut de Dieu. Mais peut-être que quelqu'un qui a lu le titre de cette réunion ce soir, en voyant en pensant à ce grand salut de Dieu, dit, mais c'est un sujet évangélique. C'est un sujet pour les non-croyants. Ou que non. C'est pour les croyants aussi. Peut-être que nous n'avons pas toujours conscience de l'ampleur de ce si grand salut. J'ai pas la prétention ce soir de vous dire des choses nouvelles, mais de brosser un tableau sur toute l'Écriture du grand salut de Dieu. Et peut-être à la fin de cette heure, mon objectif, ce serait que nous disions « Ah oui, oui, il est grand ce salut. » Mais il l'est obligatoirement, puisqu'il est de Dieu. On ne peut pas penser à quelque chose qui est de Dieu sans que ce soit glorieux, comme on l'a chanté, un salut glorieux, que ce soit grandiose, que ce soit digne de lui. Si vous me montrez une petite cabane toute disgracieuse, aux dimensions qui ne sont pas harmonieuses, vous me dites ça c'est l'œuvre d'un grand architecte de renommée mondiale, je dirais non, c'est pas possible, c'est pas digne de lui. Alors si le salut est dit de Dieu, il est forcément grandiose, il est forcément glorieux, il nous dépasse obligatoirement. Sinon, ce n'est pas de Dieu. Quelque chose qui est attribué à Dieu, obligatoirement, nous dépasse, nous, petites créatures de rien du tout dans l'univers. Alors, je vous donne tout de suite mon plan par rapport au salut de Dieu dans l'Écriture. Alors, dans l'Ancien Testament, un salut préparé du côté de Dieu, attendu du côté du fidèle. Dans les Évangiles, un salut révélé dans la personne de Jésus. Dans le livre des Actes, un salut propagé. Dans les Épîtres, un salut expliqué. Et dans l'Apocalypse, un salut consommé. Donc, préparé, attendu, révélé, propagé, expliqué, consommé. Voilà le plan. Et on va le suivre. C'est un panorama grandiose. Quand vous allez faire... ou qui est près des Pyrénées, quand vous allez faire une balade dans les Pyrénées, on voit un tout petit bout des Pyrénées. Mais si on prend un hélicoptère, on peut aller d'un bout à l'autre de la chaîne. Et ce soir, on ne va pas de l'hélicoptère, on va survoler ce salut de Dieu. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça, c'est ce qu'on fait souvent, un petit morceau, parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein. Mais là, ce soir, on va faire un survol. Qu'est-ce que j'ai lu dans ces passages? J'ai lu en Genèse 49, le premier passage où il parlait du salut, en tout cas en français, je ne sais pas en hébreu, je n'ai pas capable de savoir en hébreu, et dans Apocalypse 19, le dernier passage. Et entre les deux, dans Luc, le pivot fondamental de ce sujet, la personne du Seigneur Jésus comme étant le salut de Dieu. Alors, ce verset de Genèse 49, il est intéressant. Il faut toujours faire attention aux premières mentions de l'Écriture. On parle de la loi des premières mentions. On ne sait pas trop ce petit verset 18 s'il fait partie de la bénédiction de Dan ou celle de Gath. Il est un petit peu coincé entre les deux, là. Il est dans la bénédiction que Jacob accorde à ses fils. Alors, il est dit des choses tragiques à propos de Dan. Essayez de vous représenter la scène. Quelqu'un qui chevauche, gentiment, paisiblement, dans la campagne, sur son cheval, et puis tout à coup, il y a une vipère qui vient par derrière, mord les talons du cheval, et celui qui tombe et celui qui le monte tombe à la renverse. C'est terrible, cette scène. Et puis là, il y a ce soupir de l'âme qui, j'ai l'impression, pour moi, résume l'Ancien Testament sur le salut. J'ai attendu ton salut, ô Éternel.
Et n'est-ce pas là l'histoire de l'homme dans tout l'Ancien Testament depuis le Jardin d'Éden ? Satan qui se déguise comme ce serpent qui vient par derrière, cette bête mortelle dans la nature, et qui est une image de Satan lui-même, que Satan est comparé dans le Jardin d'Éden à un serpent, un animal très dangereux, veut toujours du mal à l'homme. À l'homme qui chevauche, ce cheval qui se promène tranquillement dans la campagne. Voilà que cet adversaire, notre adversaire, le diable, comme le dit l'apôtre Pierre, cherche à nuire à l'homme. Mais qui va nous délivrer de cette puissance qui veut qu'on tombe à la renverse, qu'on chute mortellement? Qui va nous délivrer? Et là, il y a ce soupir de l'âme du pieux. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Mais ce sera une grande histoire. Et là, c'est la première mention du salut, mais je pense que la pensée du salut est avant Genèse 49. Dès le jardin d'Éden, elle se trouve, cette pensée du salut, même si le mot n'y est pas. Ça aurait été illogique de penser au salut dans l'état d'innocence. Il n'y a pas de raison. Si vous entendez quelqu'un qui crie « Au secours, sauvez-moi !» ça veut dire qu'il est en péril, cet homme. Il est en danger, il y a quelque chose qui s'est produit. Sinon, ça serait normal de crier « Au secours, sauvez-moi !» Si on parle de salut, c'est qu'il y a quelques périls en la demeure, c'est qu'il y a quelques dangers, il y a quelqu'un de perdu, il y a quelqu'un qui est en danger, oui. Donc dans l'innocence, il n'y avait pas de raison de parler de salut. C'est à partir de la chute de l'homme qu'on parle de salut. Et donc, Adam et Ève succombent à la tentation sous l'instigation du diable. Nous connaissons cette tragédie de Genèse 3, ce désastre moral, voilà qu'ils sont coupés de Dieu. Mais Dieu les appelle. Où es-tu? Dans un sens, il les fait comparaître devant lui. Il faut qu'ils s'expliquent. Les deux, ils s'expliquent. Qu'as-tu fait? Mais je constate que les deux, ils confessent aussi. En le voyant un petit peu, oui, certes. Mais ils confessent. Si vous lisez, tous les deux, Adam et Ève disent « j'en ai mangé ». C'est la confession. Bon, c'est un côté du salut, la confession. Et l'autre côté du salut, c'est que Dieu va prendre deux animaux, les frapper, pour qu'ils soient substituts de ceux qui sont coupables. Il les a revêtus. Troisième aspect du salut, c'est que la puissance de Satan sera brisée par cette semence de la femme qui viendra, qui est annoncée. La semence de la femme te brisera. Déjà, on a l'annonce du Sauveur, là, en Genèse 3. La route sera longue jusqu'à Bethléem, très longue. Mais on y arrivera, ou plutôt Dieu y arrivera. Cette semence à venir viendra. Et c'est ta semence qui est Christ, Galates 3, verset 16, ta semence qui est Christ. Dieu a en vue Bethléem, et celui qui naîtra à Bethléem. Il parle déjà de ce libérateur. Et je ne doute pas que Adam et Ève aient cru ce message de salut, de délivrance. D'ailleurs, la preuve, c'est que Adam, il change le nom de sa femme. Elle s'appelait avant Isha, et après, elle devient Kava, la vivante. Et puis, si on avance un peu, on voit aussi qu'à la pensée du salut, lors du déluge, et c'est l'apôtre Pierre qui emploie le mot, 8 personnes furent sauvées à travers du jugement, du déluge, dans l'arche. Déjà, on a la pensée de celui, l'arche, imagé le Seigneur Jésus, qui protège, qui sauve 8 personnes. Et donc, après, nous avançons un peu, nous arrivons dans l'Exode. Alors l'Exode, je ne lis pas tous les passages parce que ça serait trop long. Exode, nous avons l'illustration, peut-être la plus grandiose dans l'Ancien Testament, du grand salut de Dieu qui est pour nous en Jésus-Christ. On a ce chant bien connu d'Exode 15, où le peuple entier est dirigé par Moïse, image du Seigneur Jésus, qui entraîne son peuple. Jah est ma force et mon cantique, il a été mon salut. Je lui ferai une invitation. Il a été mon salut. Voilà un pauvre peuple d'esclaves qui est en Égypte et qui est là sous la férule du pharaon. Il ne peut pas se délivrer, c'est impossible. Il n'y a pas d'issue pour lui. Mais voilà que Dieu prend en main sa cause et sauve son peuple. C'est la grande illustration du salut dans l'Ancien Testament. Et jusque dans les petits prophètes, il sera parlé de la sortie d'Égypte, du grand salut de Dieu. Et nous aussi, nous avons à chanter ce salut, comme ces Israélites. Peut-être nous le chantons avec moins de ferveur parce que nous ne réalisons peut-être pas suffisamment de quelle perdition nous avons été sauvés. Mais eux, ils avaient été sauvés in extremis, ils avaient passé à travers la mer Rouge, avec un mur d'eau de chaque côté, et les armées du pharaon derrière. Ils avaient échappé miraculeusement à la mort et par l'intervention divine. Ils étaient pleins de ce salut. Il faudrait que le dimanche matin, nous aussi, nous en soyons pleins de ce salut de Dieu. Que nous le chantions, que nous comprenions au fond de notre âme que grâce au Seigneur Jésus, la condamnation éternelle, rien moins que cela, mais si nous pouvions savoir ce que c'est que l'enfer, nous saurions de quelle mort terrible il nous a rachetés, il nous a sauvés. Alors on chanterait peut-être avec plus de ferveur. Ensuite, je continue. Alors, on saute à David. Là, avec Jacob, les bénédictions de Jacob, on était à moins 18 siècles, je crois. Avec la sortie d'Égypte, on est à moins 14 ou 15 siècles. Avec David, on est à moins 1000. On arrive dans les psaumes. Je lis quelques versets dans les psaumes par rapport au salut. Par exemple, au psaume 9, David dit, au verset 14, « Afin que je raconte toutes les louanges dans les portes de la fille de Sion, je me réjouirai dans ton salut. » Au psaume 13 aussi, verset 5, « Mais moi, je me suis confié en ta bonté, mon cœur s'est réjoui en ton salut. » Au psaume 35 aussi, verset 9, « Et mon âme s'égayera en l'Éternel et se réjouira en son salut. » Mais les mentions du salut sont très nombreuses dans les psaumes. Je vais au 62, où il y a des belles paroles de David. 62. Sur Dieu, seule mon âme se repose paisiblement, de lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne serai pas beaucoup ébranlé. Verset 6. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu seul repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Vous voyez, cette insistance de David à parler du salut de Dieu, bien sûr, ça, c'était peut-être un salut circonstanciel pendant les 20 années qu'il fuyait devant Saül. eh bien, il avait besoin de salut, il avait besoin de délivrance, parce qu'il avait, il dit quelque part, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Donc, on comprend, mais ça illustre aussi ce grand salut que Dieu a préparé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, si on avance un peu encore dans le prophète Ésaïe, on est à moins 700 du grand salut de Dieu en Jésus-Christ, parce que c'est le point capital de ce salut. Dans l'Ancien Testament, un salut préparé du côté de Dieu est attendu du fidèle. Alors dans Ésaïe aussi, on a beaucoup de mentions du salut de Dieu. J'en lis simplement quelques-unes caractéristiques. Dieu, d'ailleurs, au chapitre 43, dit, verset 11, moi je suis Dieu, je suis l'Éternel. Hors moi, il n'y en a point qui sauve. 45, verset 8. Tu es distillé dans l'eau, et que les nuages fassent ruisseler la justice, que la terre s'ouvre et que, à la fois, le salut se produise et la justice germe. Un peu plus loin, au 45, 21, hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu juste et sauveur. Il n'y en a point. Si ce n'est moi, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre. 46, verset 13. J'ai fait approcher ma justice, elle ne sera pas éloignée, et mon salut ne tardera pas. Et je mets en Sion le salut, et sur Israël ma gloire. Et puis 49. Ce verset que l'apôtre Paul cite à Antioche de Pisidie dans son discours, 49, verset, à la fin du verset 6, je te donnerai pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Et un dernier verset au chapitre 56, verset 1. 56, verset 1, ainsi dit l'Éternel, gardez le jugement et pratiquez la justice, car mon salut est prêt de venir et ma justice d'être révélée. Et dans le prophète Zacharie, c'est probablement la dernière mention du salut dans l'Ancien Testament, donc après la transportation de Babylone, après le retour de Babylone, au chapitre 9. Ce verset qui sera cité dans les quatre évangiles. Réjouis-toi, 9 verset 9, réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble, et monté sur un âne et sur un poulain le petit d'une ânesse. Et puis après, plus rien sur le salut. Et nous savons qu'entre Malachie et le Nouveau Testament, il y a 4 siècles, Dieu se tait. Pourquoi Dieu se tait? Parce qu'il a tout dit. Il a tout dit par la voix des prophètes. Et il n'a rien à ajouter. Et Israël entendra-t-il la voix des prophètes qui se lisent chaque sabbat? Comme Paul le dit dans son discours Antioche de Pisidie, les prophètes qui se lisent chaque sabbat. Est-ce que Israël sera attentif à ce grand salut que Dieu a préparé dans l'ancienne alliance, dont les prophètes ont parlé, Ésaïe et jusqu'à Zacharie? Eh bien, l'ensemble du peuple, non. Malgré qu'on lise les prophètes chaque sabbat, Paul dit, ils n'ont pas connu Jésus. Mais quelques-uns quand même ont attendu, étaient prêts à recevoir cette révélation du salut de Dieu, et nous l'avons vu dans Luc. Quelques-uns, Il se nommait Marie et Joseph, qui était jeune, mais il y avait Zacharie et Elisabeth, qui étaient âgées, il y avait Simon, il y avait Anne, et il y avait les bergers, des gens simples de la campagne, qui entendent cette voix, alors qu'ils gardaient leurs moutons. Je vous annonce un grand sujet de joie, car dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. La route a été longue depuis la promesse faite dans le jardin d'Éden de cette semence de la femme. Et Siméon ne s'est pas trompé. Siméon, ce vieillard guidé par l'Esprit, au moment où les parents apportaient le petit enfant Jésus, à l'âge de 8 jours, il ne s'est pas trompé. Et il a dit des paroles merveilleuses, Siméon. Pourquoi les a-t-il dites? Parce qu'il était illuminé par le Saint-Esprit. Et il a dit, « Mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une révélation des nations et pour la gloire de ton peuple Israël. » Il comprend tout. Et pourtant, un petit enfant, mais qu'est-ce qui peut sauver un petit enfant? Il faut s'occuper de lui, il ne peut rien sauver du tout. Il a compris que Jésus était là, le Messie, promis par les prophètes, il était là. Siméon, il était âgé. Il ne verra pas, il n'entendra pas les merveilleuses paroles que le Seigneur Jésus prononcera 30 ans plus tard. Il ne sera pas là pour voir les miracles extraordinaires qu'il fera dans toute la Palestine, la Judée, la Galilée. Siméon ne sera pas là au pied de la croix pour entendre le cri de victoire. C'est accompli, que le Seigneur Jésus poussera. Siméon ne sera pas là pour le voir ressusciter le matin de Pâques. Non, il sera parti depuis longtemps. Mais il tient le petit enfant, ça lui suffit. Et je fais une parenthèse à propos de ça. Peut-être que nous ne serons pas tous en vie, peut-être surtout par rapport aux plus âgés, mais pas forcément. Nous ne serons pas tous en vie à l'enlèvement de l'Église. Nous serons peut-être déjà partis, nous aussi. Mais pourvu que nous serions, pourvu que nous sachions que les promesses de Dieu sont sûres et qu'il poursuit son plan, comme Siméon, ça suffit. On peut partir en paix, nous aussi. Le plan de Dieu, il va s'accomplir, il va continuer. On ne sera pas là, on ne sera pas en vie, mais il va continuer. Siméon croit que le plan divin est en marche, parce qu'il a ce petit enfant dans les bras. Il peut partir en paix. Je ferme la parenthèse. Donc Jésus est là, et donc il a fait toutes ces années de son enfance, et puis il y a 30 ans, il prend en main son ministère, qui va durer 3 ans et demi, seulement une demi-semaine, et on va le clouer sur une croix. Et dans les évangiles, nous n'avons pas le salut expliqué, nous avons le salut révélé, nous avons les faits dans les évangiles. Nous savons bien que c'est la croix qui nous sauve, mais on n'a pas d'explication dans l'évangile. Enfin, les ennemis ne savaient pas si bien dire quand ils ont dit au Seigneur, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Oui, c'était vrai, il a sauvé les autres. Mais pour qu'il sauve les autres, il ne fallait pas qu'il se sauve lui-même, il ne fallait pas qu'il descende de la croix. C'est vraiment, nous arrivons après dans le livre des actes. Et dans le livre des actes, nous avons un salut propagé, même avant qu'il soit expliqué. Parce que les apôtres reviendront après pour l'explication. Mais là, au temps des actes, il n'y a pas d'explication. Mais pourvu qu'on connaisse le Sauveur, on prêchait le Sauveur. Et qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Pierre? Il dit en acte 4, quand, lors de son quatrième discours, je crois. Et oui, quatrième discours. Il dit au chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Car aussi, il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui nous soit donné parmi les hommes par lequel il nous fallait être sauvés. Et donc, il propage ce salut. Et un peu plus loin aussi, quand le geôlier dit que faut-il que je fasse pour être sauvé, il dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est aussi simple, la foi. Et donc là, nous sommes dans la propagation du salut, un salut propagé. Et là, c'est, je voudrais être très pratique finalement, parce que on a déjà vu qu'on doit le chanter, ce salut, comme les fils d'Israël sur le bord de la mer Rouge, se réjouir dans le salut de Dieu, mais on doit aussi le propager. Et le Seigneur Jésus, avant de partir, a dit que vous serez mes témoins. Alors il a donné trois sphères, à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Il y a de nos frères qui vont jusqu'au bout de la terre, au sens propre. Nous les soutenons par nos prières, parfois aussi financièrement, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas notre affaire d'aller au bout de la terre. Il faut penser aux deux autres lieux, beaucoup plus près de nous, Jérusalem, la proximité, autour du village, même dans le village, et la Judée et la Samarie, un peu plus loin. Et on se rend compte que c'est peut-être pas si facile que ça non plus. Ouais. J'ai un grand respect pour ceux qui vont au bout de la terre. Il faut le faire, ce n'est pas les adeptes du canapé qui peuvent le faire. Mais la proximité, c'est pas facile non plus si nous essayons un petit peu d'évangéliser nos contemporains autour. Et il faut y penser. Nous devons propager ce grand salut de Dieu et dire aux gens qu'ils doivent être sauvés, qu'ils peuvent être sauvés. Alors, comment? Il y a beaucoup de moyens d'évangélisation. Je ne voudrais pas me citer un exemple, mais moi, dans ma pochette d'argent, chaque fois que je sors, j'ai toujours des traités dans la pochette. Toujours. Et si je vais faire des courses et que je rentre à la maison sans avoir donné un ou deux traités, je ne suis pas content. Je ne suis pas content de moi. Si j'en ai donné quelques-uns, deux ou trois, j'ai presque rien fait, mais presque. Pas tout à fait. Et un peu partout, même sur une aire d'autoroute, pourquoi pas. Sur il y a un banc là, dans le public, il y a un monsieur qui est là, qui attend, et ben, on donne un traité. Un peu partout. Dans l'espérance que ces grains ici et là vont germer. Peut-être qu'ils vont tomber dans le mauvais terrain, mais peut-être qu'ils vont tomber aussi dans le bon. On voudrait s'encourager mutuellement à être des témoins, ici et maintenant, partout. On va donner un calendrier à la fin de l'année, mais probablement vous le faites aussi. Hein. Vous avez cet exercice parce que. On ne peut pas la vie de l'Assemblée, oui, mais aussi le témoignage de l'extérieur. Entre chrétiens, on est bien, on s'édifie, on prie, on adore, mais le témoignage de l'extérieur, c'est important et on est beaucoup moins à l'aise. Parce que devant le monde impie, incrédule, moqueur, bon, on n'est pas trop en danger. Hein. Si on donne un traité à la caissière d'Intermarché de Leclerc, on ne va pas recevoir un coup de couteau dans le dos. Mais il n'empêche qu'on peut avoir un sourire moqueur à la face. Et on n'aime pas trop. Et pourtant, on doit propager ce grand salut, pas le garder pour nous. C'est pas possible. Mais c'est notre mission. Donc dans les épîtres, il faut avancer. Dans les épîtres, on a un salut expliqué. Et ceux qui ont réuni le canon du Nouveau Testament ont mis en tête des épîtres l'épître aux Romains. Non pas qu'elle ait été écrite la première, je crois que la première c'est celle aux Thessaloniciens, mais on l'a mis en tête parce que justement elle nous montre, elle nous explique le salut de Dieu. Qu'est-ce qu'on a au début de l'épître aux Romains? Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Alors, quand on est jeune, et même quand on est moins jeune, quand on lit l'Épître aux Romains, on dit « Oh, c'est compliqué, cet épître. » Mais il y a peut-être une autre explication, c'est que Dieu prend beaucoup de peine à nous dire comment nous sommes sauvés. Et à la fin de l'épître, pourquoi nous sommes sauvés. Mais d'abord, comment? Alors, est-ce qu'il faut que je résume comment nous sommes sauvés? Alors, je vais m'y prendre en racontant une histoire qui est à la fois à cheval sur l'écriture, oui, dans le sens près de l'écriture, mais qui est aussi dans l'histoire des hommes, mais qui va être rapidement dépassée dans l'histoire des hommes. Voilà, il y a un homme qui est devant, qui a un tribunal. Et cet homme, il est à la barre, et il est condamné. Il est condamné mort, cet homme. Et le juge ne peut que, étant juste, le condamner. C'est ce qu'on a au début de l'Épître aux Romains. Dieu fait passer tout le monde à la barre de son tribunal, toutes les catégories. Alors, au premier chapitre, les païens. Au chapitre 2, les moralistes et les juifs. Et au chapitre 3, il déclare tout le monde coupable. Il n'y a pas de juge. Tout le monde est coupable et n'atteint pas la gloire de Dieu. Et voilà, le juge, il est... Oui, étant juste, il est obligé de condamner cet homme. Et cet homme, il est évidemment, c'est un coup terrible pour lui. Il est prostré, il est sous le poids de sa condamnation. Mais ce juge qui le condamne connaît bien cet homme. Et il voudrait le sauver. Il aime cet homme. Pourtant, c'est juste qu'il condamne. Alors, il ne sait pas comment faire. Il est dans un dilemme de ce juge. Et donc, il sort dans une pièce à côté, à l'arrière du tribunal. Il abandonne pour un moment la séance du tribunal. Et il va derrière. Et là, dans cette pièce annexe, il y a son fils. Alors, il explique à son fils, voilà, je suis dans un grand dilemme avec cet homme. Il faut que je le condamne, mais pourtant, je l'aime. Et son fils lui dit, eh bien, père, moi, j'irai. Et je prendrai la condamnation de cet homme sur moi. J'accepterai de mourir à sa place. Le père accepte la proposition du fils et le père donne son fils dans son sein. Le juge rentre de nouveau dans le tribunal et s'adresse à celui qui est à la barre, là, qui est prostré sous sa condamnation. Il dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne seras pas condamné. Parce que mon fils va prendre ta condamnation sur lui. Le visage de cet homme s'éclaire. Je ne serai pas condamné. Oui, tu ne seras pas condamné. Tu es sauvé. Eh bien, c'est ça la croix. C'est ça la merveille de la croix. Dieu a pu concilier dans la croix son amour et sa justice. On dit quelquefois, souvent, que la croix, et on a bien raison de le dire, la croix est le triomphe de l'amour. Mais on devrait dire tout autant, la croix est le triomphe de la justice. C'est pour ça que dans l'Épître aux Romains, on est là pour comprendre ça, c'est qu'il est parlé jusqu'au chapitre 5, où la première fois il est parlé de l'amour, tous les chapitres roulent sur le sujet de la justice. Et la justice est révélée. Dans l'Évangile, on dirait l'amour est révélé. Ah non, mais pas seulement. La justice de Dieu, Dieu est juste. Dieu ne fait pas, Dieu ne met pas en évidence un de ses attributs pour mettre de côté un autre, c'est pas possible en Dieu. Non, non. Mais justement, la croix, c'est cette merveille de conciliation possible, rendue possible, entre la justice et l'amour. Et nous sommes sauvés, comme cet homme qui est là-bas, il est sauvé parce qu'un autre a payé. Et il le croit. Il faut la foi aussi. Il faut le substitut. Voilà un peu le salut expliqué. Là, il faut que j'ouvre une parenthèse dans mon grand plan. Il faut que j'ouvre un petit plan à ce point. Un salut passé. Un salut présent et un salut à venir. Un salut passé, c'est ce que je viens d'expliquer par la croix. Il y a 2000 ans que le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Alors maintenant, on s'empare de ce salut par la foi, seulement par la foi, c'est-à-dire que la foi exclut les œuvres que je ferai pour me sauver, c'est ce qui est impossible. Un salut en dehors de moi, mais pour moi, il y a bien longtemps, à Golgotha. Et donc, maintenant, nous sommes sauvés. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira aux Éphésiens, dans une assemblée qui marchait très bien, puisque l'assemblée à Éphèse représente l'Église dans son épanouissement maximum. Il n'y a pas d'autre Église qui ait eu un épanouissement comme l'Église à Éphèse. Mais pourtant, cette assemblée prospère. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Et vous êtes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Des fois, des choses élémentaires qui doivent nous être rappelées, même si nous sommes, on pourrait dire, en bon état spirituel, dans une assemblée comme individuellement. Ça me fait penser à un frère qui a beaucoup œuvré, il a fait des centaines de camps, il a écrit une quarantaine de livres, voilà, il a consacré une partie de sa fortune pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a voulu qu'on mette sur sa tombe ? Sauvé par grâce. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. Mais on est sauvé. Par grâce, par la foi, par le sang. C'est-à-dire l'œuvre, c'est ce que l'apôtre nous dit dans Romains 3. Ça, c'est fait, une fois pour toutes. Maintenant, il est un salut présent. Où est-ce qu'il est parlé d'un salut présent dont nous avons besoin ? Hébreux 7. Hébreux 7. Verset 24. Alors, verset 23. Et ceux-ci, ceux-là, donc les sacrificateurs d'autrefois, étaient plusieurs sacrificateurs parce que la mort les empêchait de demeurer, mais celui-ci parce qu'il demeure éternellement la sacrificature qui ne se transmet pas. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Voilà. Il peut nous sauver entièrement. Sauver ou délivrer. Pas quant à notre âme, mais quant à nos circonstances de la vie. L'âme, l'esprit, c'est fait, c'est déjà fait. Nous sommes sauvés. Et voilà qui vient de nous dire, l'Esprit de Dieu vient nous dire que nous pouvons être sauvés dans le chemin de cette vie, c'est ce qu'on a appelé le salut de la course, et nous en avons tous besoin. Je ne sais pas vos circonstances, vous ne savez pas les miennes, mais je suis sûr que nous avons tous besoin, et les uns et les autres, à quelques stades de la vie, nous avons besoin de secours. Nous avons besoin de ce salut journalier, de délivrance, dans nos circonstances auxquelles nous sommes aux prises, et c'est des fois assez impérieux, mais enfin le Seigneur le sait. Et donc, dans cette épître merveilleuse, le Saint-Esprit, par un auteur anonyme, donc le Saint-Esprit est peut-être plus en évidence quand on ne sait pas qui parle, nous assure que nous avons un Seigneur vivant. Quatre fois il est dit qu'il est assis ou qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Il veut nous affirmer cela. Et c'est pas comme autrefois les sacrificateurs, Aaron, on voit dans le chapitre 20 du livre des Nombres que Moïse et Aaron sont montés sur la montagne dehors, et puis Moïse a dû dépouiller son frère, le sacrificateur, de ses beaux vêtements. Donc sa sacrificature d'Aaron a eu un terme. Il dit non, avec le Seigneur, c'est pas ça. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Est-ce que nous avons toujours conscience que le Seigneur Jésus prie pour nous, il a prié dans cette journée pour nous? Est-ce que nous savons, mais je le dis pour moi, est-ce que nous savons ce que nous devons aux prières de notre Seigneur Jésus-Christ? Probablement pas. Mais s'il n'y avait pas eu cette prière, probablement qu'on ne serait pas là. Je ne sais pas où on serait, peut-être dans le monde. On n'aurait aucun intérêt à lire la parole. Peut-être qu'on serait sauvé, mais on n'aurait pas le désir de la lire, de s'en nourrir. Oui, nous devons beaucoup ces prières. Dans Romains 8, il est dit aussi qu'il intercède pour nous, selon Dieu. Parce que nous sommes dans une condition précaire. Nous sommes devant le monde, ce monde à la fois séduisant et terrible, et effrayant. Nous avons besoin d'être sauvés. Alors, comment de notre côté, comment? Eh bien, le chapitre 4 nous le dit, il faut nous approcher de ce Seigneur. Nous sommes encouragés à nous approcher. Nous n'avons pas quelqu'un qui nous puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses. Il a connu cette vie sur la terre avec toutes ses souffrances, ses deuils, cette pression du monde. Il a connu tout cela et il est capable de nous comprendre. Si personne autour de nous, et c'est très difficile de se comprendre, même entre chrétiens, avec toute l'affection qu'on a pour ses frères et sœurs, il y a une partie de notre vie quand même où on est seul, quelque part, dans notre souffrance. Bon, et bien le Seigneur, lui, peut nous comprendre. Et donc, il nous est dit, nous approchons avec confiance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour avoir du secours, du salut, au moment opportun, jamais en retard. Et il est dit que le Seigneur est... Il a trois caractères, miséricordieux, fidèle, secourable. Ah, nous sommes bien pourvus dans ce monde. Mais nous avons du secours, nous avons besoin de salut dans la marche. Alors, ensuite, le salut à venir. Bon, eh bien, dans les Philippiens. Dans les Philippiens, le salut à venir. Philippiens 3, verset 20. Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus comme sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement, dans d'autres versions c'est le corps de notre humiliation, en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir, de cette dynamique, qu'il a de s'assujettir toute chose. Nous attendons Jésus comme sauveur. Quoi? Je croyais être sauvé. Ah ben oui, quant à mon esprit, quant à mon âme, oui, mais pas quant à mon corps. Et nous attendons le salut du corps. Ah oui, parce que quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. On voit dans la création, il a créé quelque chose qui fonctionne. Soit dans la biologie, dans l'astronomie, ça fonctionne depuis un bout de temps. Parce que Dieu a fait les choses d'une façon complète et qui marche. Donc quand Dieu parle de salut, c'est un salut complet. Corps, âme, esprit. Et ça c'est merveilleux, ça. Parce que nous sommes dans une situation extrêmement précaire. Nous sommes mortels tous les jours. Il y a des maladies, des deuils, des... Et puis aussi, je pense que ce verset ne couvre pas le fait que, eh bien, on va quand même oublier qu'il y a une partie de l'Église depuis la Pentecôte qui est dans la tombe, sans parler des croyants de l'Ancienne Alliance. Il y a des millions, quant au corps, il y a des millions de croyants dans l'Ancienne Alliance, chrétiens depuis la Pentecôte, qui sont dans la tombe. C'est ça le salut de Dieu? Que des croyants sont dans la tombe? Ah ben non. Ah non. Mais Dieu ne peut pas laisser les choses en l'état. Tous nos bien-aimés que nous avons connus, qui étaient peut-être sur ses bancs et qui sont dans la tombe, mais le salut de Dieu, nous attendons le salut de Dieu par rapport à eux. Vous me direz, ils sont bien heureux. Oui, ils sont bien heureux près du Seigneur par rapport à leur esprit et leur âme. Mais leur corps est bien dans la tombe. Alors certains disent, mais enfin, le corps, est-ce que c'est important le corps? Après tout, c'est qu'une enveloppe. Ah ben oui, c'est important pour Dieu, puisqu'il a ressuscité celui de Jésus. C'est important pour Dieu l'enveloppe. Ah ben ça fait partie de notre identité. Mais alors, vous allez me dire, mais on va pas partir à sa rencontre en l'air avec ce corps. Ben non, pas avec ce corps, mais avec un corps glorieux, mais n'empêche qu'à partir de ces restes qui sont dans la terre ou de ces corps mortels. Le corps de notre abaissement ou le corps de notre humiliation, quand on est jeune, on ne comprend pas tellement ces termes. Quand on a un beau corps svelte et souple, et beau, le corps de notre abaissement, oui, mais quand on fait des visites aux vieillards, on voit ce que, aux handicapés, de toutes sortes, on voit ce que ça veut dire, le corps de notre humiliation. Et je me demandais aussi si ça, justement, si ça n'avait pas trait aux restes qui sont dans la terre. Je prends un exemple, Joseph, à la fin de sa vie, il dit à ses frères, vous ferez monter d'ici mes os. Est-ce que vous avez essayé de dire un petit peu pour vous-même et par rapport à vous-même, mes os? Ce n'est pas une expression légère. C'est vraiment le corps de notre humiliation, que des os. Oui, mais n'empêche que Joseph, il voulait que ses os montent. Il croyait dans la résurrection. Sinon, bon, peu importe. Oui, le corps de notre humiliation. Eh bien, le Seigneur, soit ceux qui sont morts, soit ceux qui sont vivants, les transformera à la ressemblance de son corps glorieux. Mais c'est extraordinaire. Si quelqu'un rentrait là, il n'est pas la foi, vous entendez, mais ces gens, ils sont fous de croire des choses pareilles. Et oui, peut-être quelque part. Mais c'est la folie de Dieu. Je n'oserais pas employer cette expression si elle n'était pas un corinthien. Mais voilà, on croit. Alors, si, vraiment, il faut croire à la toute-puissance de Dieu, sinon c'est pas possible. Mais nous croyons à la toute-puissance de Dieu, du Dieu qui a à partir de la poussière, il a fait un être humain, et même la création à partir de rien. Donc Dieu est tout-puissant. Et puis la grande preuve que nos bien-aimés, tous les croyants morts dans la foi ressusciteront, et c'est la résurrection du Seigneur Jésus dans le matin de Pâques. Comme il y a deux versets à peu près identiques en 1 Corinthiens 6 et en 2 Corinthiens 4, comme Dieu a ressuscité notre Seigneur, il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Lui, d'abord, les prémices, et puis nous. Tout ce que je vous raconte là, je ne fais que dire ce que vous savez, mais nous avons besoin, comme l'apôtre Jude nous le dit, de nous édifier sur notre très sainte foi. Et donc, nous attendons Jésus comme sauveur. Quelle merveilleuse espérance! Oui, il vient comme sauveur du corps. Mais alors, est-ce que j'ai fini? Presque. Pas encore. Parce que donc, l'Église est enlevée à la rencontre du Seigneur en l'air. Et après, la vie sur la terre va continuer. Et qu'est-ce qu'il reste à sauver après? Il reste encore à sauver. Il reste à sauver le peuple juif. Et donc, en Romains 9 et 11, nous avons cette mention là, du salut par rapport au peuple juif. Romains 9, verset 27. Romains 9, verset 27. Quand le nombre des filles d'Israël sera comme le sable de la mer, le résidu seul sera sauvé. Et puis un peu plus loin, chapitre 11, verset 26, « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, etc. » Donc, si je groupe ces deux passages, j'en déduis que ce résidu, enfin, c'est une expression un petit peu, dans le langage courant, un peu méprisante, mais dans le langage de la Bible, en fait, cette version le traduit par « reste », les restes d'Israël, c'est pour Dieu, c'est tout Israël. C'est son vrai Israël. Mais il faut qu'il soit sauvé parce qu'il y a un contentieux de son peuple, du peuple d'Israël, du peuple terrestre avec son Dieu, oui, depuis la croix. Il a mis à mort son Messie. Donc il y a une chose à régler, comme avec les frères de Joseph. Il y avait un compte à régler. Et donc, 20 ans après, ou 20 siècles après, pour le résidu juif, il va falloir que Dieu travaille dans ce résidu juif pour qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont percé. Et alors, ils le reconnaîtront. Et dans le premier temps, on dit, mais il est venu. On l'a pas reconnu. C'était lui. Et alors, le premier instant, ce sera, il est dit dans Zacharie, qu'ils se lamenteront comme on se lamente de la perte d'un fils unique. Ils seront saisis des fois, disant, ben, on l'a crucifié, c'était lui, le vrai Messie. On pensait que c'était un imposteur, comme Paul le croyait au début, avant sa conversion, il croyait que c'était un imposteur. Et alors, il y aura un travail profond, comme dans les frères de Joseph. Et puis, le Seigneur Jésus, comme le Messie se manifestera à eux, dit, moi je suis Joseph, moi je suis votre Messie, et je suis un Messie vivant. Mais il faudra qu'ils comprennent eux aussi que ce Messie a porté leur condamnation, ils l'ont crucifié, mais il a porté aussi leur condamnation à eux. Et donc ils seront sauvés. Et avec eux seront sauvés aussi probablement le résidu de toutes les nations. Enfin, on voit dans Ésaïe qu'il y a le résidu de toutes les nations, sauf d'Édom, nous dit le petit prophète Abias, encore que, j'en doute. C'est comme si Dieu ne se résolvait pas à ce qu'il n'y ait pas de reste d'aucune nation. Parce que c'est d'Édom qu'il est dit, mais laisse tes veuves et tes orphelins, moi j'en prendrai soin. Il y a un autre passage aussi qui montre que même en Édom, il y a un reste. Et donc, c'est probablement des enfants qui n'ont pas reçu l'évangile de la grâce maintenant, mais qui ont grandi et qui recevront l'évangile du royaume. Et on voit que dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, donc dans la Sainte Cité, il y a les douze apôtres, enfin bon, ça c'est l'Église, la femme de l'agneau, et il y a les 12 tribus d'Israël, et il y a les nations qui marcheront à la lumière d'Israël. Donc les nations aussi de ce temps-là seront sauvés par l'évangile du royaume. Mais Israël sera sauvé. Alors dans l'Apocalypse, nous avons trois mentions du salut dans l'Apocalypse. Je les lis rapidement au chapitre 7, qui font allusion au règne. Au chapitre 7, verset 10, et il crie, cette grande foule, il crie à haute voix disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et puis au chapitre 12, verset 10, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Et ces mentions, et donc au chapitre 19, et ces mentions sont importantes parce que qui lit ces chapitres 6 à 18 inclus, doit bien reconnaître que ce sont des chapitres terribles à lire. Ce sont des chapitres terribles de jugement. Mais le jugement, ce n'est pas une fin en soi pour Dieu. Non, non. C'est un passage obligé à cause de la rébellion des hommes. Et il est dit dans Ésaïe que le jugement, c'est l'œuvre étrange de Dieu, son travail inaccoutumé. Et dans ces chapitres, si terrible soit-il, il y a quand même ces lumières. Et le salut de Dieu est en vue. Et le salut, c'est le règne, au chapitre 19. Et chapitre 1. Donc, on voit là cette petite lumière, malgré les terribles choses qui se passent dans ces chapitres, le salut. Dieu va apporter le salut sur la terre par le règne du Seigneur Jésus, sauvant, comme je l'ai dit, le résidu juif et des nations qui croiront l'évangile du royaume. Est-ce que j'ai fini? Encore pas tout à fait. Mais qu'est-ce qui reste à sauver? Est-ce qu'il reste à sauver encore quelque chose? Oui, la création. Psaume 36, 36 est un verset étrange. Verset 6. À la fin du verset 6. Éternel, tu sauves l'homme et la bête. Bon. Alors, sauve l'homme, on comprend. C'est tout ce que je viens de dire. Mais la bête. Eh oui. La création a besoin d'être sauvée aussi. Et de ce verset, on a une illustration avec le déluge. Dieu a sauvé l'homme, 8 personnes, et il a sauvé la création aussi. Il a sauvé les bêtes, des couples qui sont rentrés dans l'arche. Et certainement, c'est une image de ce qui va se passer pendant 1000 ans. Et on a plusieurs passages où on voit là, dans un sens, le salut de la création, parce que la création, Romains 8 nous dit que la création soupire. Et elle est personnifiée, c'est remarquable ce verset de Romains 8, parce qu'elle est personnifiée, elle dit qu'elle soupire. Nous aussi, nous soupirons, mais la création soupire. Et elle est en travail, et elle attend la révélation des fils de Dieu. Et on voit bien ces soupirs de la création. Il y a plusieurs ici, de personnes de la campagne, même si on n'est pas de la campagne, on peut le voir, quand même, il y a des maladies, des végétaux, des animaux. Il n'y a pas que nous, dans un sens, qui souffrons dans la création. Et puis, bien sûr, elles souffrent aussi à cause de nos bêtises, de la pollution. Et on va dans la mauvaise direction à cet égard-là. On veut bien faire quelque chose, mais tant que ça ne touche pas les finances. Et finalement, les efforts sont très très faibles, et la création est assujettie à l'homme aussi, qui l'exploite, la surexploite, les mers et tout, les minerais, etc. La création soupire. Et elle sera franchie de la corruption qui pèse sur elle. Alors ça c'est une pensée qu'on entend très rarement, mais il me semble qu'elle est vraie. C'est que le Seigneur Jésus est mort sur la croix aussi pour le salut de la création. Pour réconcilier, alors peut-être que je verrai la chose dans les Colossiens, pour réconcilier toute chose avec elle-même. Je laisse la question ouverte. Alors dans Ésaïe 11 par exemple, qui nous parle de ce beau règne millénaire, il est dit par exemple aussi que les animaux ne seront plus féroces pour les autres. Quand vous voyez un lion qui saute sur une gazelle, une antilope, c'est cruel, c'est violent. Hein. Et bien, dans le règne, ça n'existera plus. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Dans un sens, il n'y aura plus de violence. Il n'y aura plus la loi de la jungle, qu'on considère comme normale aujourd'hui pour la survie de l'espèce, enfin, c'est le cycle, mais non, ça n'existera plus. Et il n'y aura plus de danger, le nourrisson pourra s'étendre sur l'antre de la vipère, etc. Et la terre sera pleine de la gloire de l'Éternel. Ça sera une ère de prospérité dans la nature incroyable. Déjà, bon, c'est beau la nature, mais justement, elle souffre. Et que sera la nature, la création dans le millénium? Et est-ce que c'est forcé les choses de dire que le Seigneur Jésus est mort aussi pour le salut de la création? Il sauvera l'homme et la bête. Voilà, j'ai complètement fini. Il faut que je conclue, que je résume. Donc, pratiquement pour nous, ce grand salut de Dieu qui s'étend d'un bout à l'autre de l'Écriture, qui s'étend à notre âme, notre corps, Israël, la création. Nous devons le chanter, ce salut de Dieu. Jah est ma force et mon cantique, il a été mon salut. Nous devons nous réjouir comme David en notre salut. Et je note ce que je n'ai pas dit, que Habacuc dit une note plus haute. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. David se réjouit dans le salut, c'est déjà bien, mais lui se réjouit dans le Dieu de mon salut. Le Dieu qui a pensé un salut pareil, d'une étendue pareille, Je me réjouis dans ce Dieu-là. Ensuite, j'ai à propager ce salut, que le Seigneur nous aide dans cette tâche difficile, mais c'est quand même notre mission, de propager ce salut. Et puis, d'attendre ce salut de nos corps, par la venue du Seigneur Jésus, cette venue bienheureuse qui nous délivrera de toutes les souffrances, de toutes, pas seulement de nos souffrances, mais de nos limitations aussi, pour comprendre les choses spirituelles. Le salut d'Israël aussi, nous l'attendons, nous pouvons bien l'attendre aussi, le salut de la création. Que Dieu bénisse sa parole.